vous parlez de la création de notre collectif qui s'appelle Ding Dang Dong et que, pourquoi on a créé ce collectif. Et parce que c'est quelque chose qui est parti d'une petite histoire, l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alice, qui a appris qu'elle était concernée par la maladie de Huntington, dont je vais vous parler parce qu'elle a beau être pas si rare au sein des maladies rares, elle reste rare, donc on en profite à chaque fois qu'on peut pour en parler. C'est une maladie génétique, alors pour le coup très héréditaire celle-ci, parce que elle est causée par une mutation génétique qui a été identifiée dans les années 90 et qui permet de savoir si on porte ce gène ou pas. Et comme elle a la caractéristique, cette mutation, d'être alors c'est les termes techniques, autosomique dominante, j'y arriverai jamais, c'est pas mon métier, à pénétrance complète, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'elle elle ne saute pas de génération dans sa façon d'être héréditaire, que chaque enfant issu d'un parent atteint lui-même par la maladie d'Huntington a une chance sur deux d'en avoir hérité dans ses gènes. Et si c'est le cas, elle est à pénétrance complète, ça veut dire que si c'est le cas, si la personne est porteuse de cette mutation, elle va forcément la développer. C'est pas juste un risque. Voilà. Donc c'est vraiment des caractéristiques très, très particulières. Au niveau de ses symptômes, c'est une maladie plutôt de l'adulte. C'est pas une maladie du grand âge, ça touche en moyenne des personnes âgées de 35 à 50 ans, donc vraiment au beau milieu de la vie active. Il y a des formes bien plus précoces, ce sont des formes juvéniles rares, encore plus rares, 6% environ, et puis des formes plus tardives qui sont aussi rares. Et ces symptômes altèrent à peu près tout ce qui constitue une personne, à la fois des troubles physique et moteur, avec la fameuse chorée qui a longtemps donné son nom et qui donne encore un peu son nom selon les pays à la maladie. La chorée, ça veut dire en grec danse, et ça désigne des mouvements incontrôlés de toute ou partie du corps et qui induisent des handicaps de troubles de la marche, de l'équilibre, et progressivement, puisque c'est progressif, vraiment des très grandes difficultés à être autonome physiquement. Des symptômes psychocognitifs très importants, qui sont peut-être les choses qui sont moins dites, pendant très longtemps vis-à-vis d'Huntington, on ne parlait que des symptômes moteurs, alors qu'en réalité, les symptômes psychocognitifs, c'est-à-dire l'altération des fonctions cognitives qui permettent de penser n'importe quel geste de la vie quotidienne, par exemple cuire ses pâtes, faire un dîner, à réfléchir à des choses simples et à des choses compliquées, tout ça est peu à peu affecté par la maladie qui entraîne vraiment des modifications très importantes du fonctionnement de la pensée, et puis des troubles parfois psychiatriques liés à tout ça. Maladie rare, c'est une maladie qui touche en Suisse à environ, je crois, 400 malades, parce qu'elle touche, on dit que sa prévalence est entre 6 à 8 personnes sur 100 000 habitants. Donc par exemple en France, on a entre 6 à 8 000 personnes qui sont touchées. Donc elle fait partie des maladies pas si rares que ça, vis-à-vis d'autres maladies très rares dont a parlé Loredana. C'est une maladie à ce jour incurable, qui progresse donc tout au long de la vie, mais qui n'est pas orpheline de recherche. Elle est orpheline de traitement à ce jour curatif, mais elle n'est pas orpheline de recherche dans la mesure où on a beaucoup de chance du fait que le gène a été isolé, etc. Beaucoup de laboratoires s'intéressent à cette histoire, parce que si au fond ils trouvent pour Huntington, ça veut dire qu'ils vont trouver aussi pour d'autres maladies génétiques. Ça ne veut pas dire qu'on est tout près d'avoir un traitement non plus, mais toute la communauté est très mobilisée à suivre les essais thérapeutiques qui ont lieu, etc. Pour l'instant, il y a du soin, mais c'est uniquement, on va dire, sur les symptômes de la maladie et pas pour ralentir son évolution, ni évidemment pour l'arrêter. Mais ces soins sont très importants et changent énormément la qualité de vie des personnes, d'où l'importance considérable du diagnostic dont a parlé Loredana. Alors, je reviens à Alice. Alice, quand elle a su tout ça, enfin, elle a su que sa mère était malade de Huntington, elle a décidé elle-même de passer le test. Et elle a appris qu'elle était porteuse de la mutation génétique. Elle n'était pas du tout malade à ce moment-là, elle avait zéro symptôme, mais elle avait une trentaine d'années, ce qui signifiait, on lui a appris, que ça commencerait bientôt, du coup, vu les statistiques. Elle était dès lors confrontée à un paquet de problèmes que je vais vous décrire un tout petit peu, parce qu'ils ont été précisément à l'origine de la création du collectif. Lors de son test, ses interlocuteurs, qui étaient médecins, psy, spécialistes de Huntington, pendant tout un protocole qui a duré plusieurs mois, ont insisté pour lui dire qu'ils n'étaient pas en train de faire autre chose que de l'informer autour de cette maladie, afin qu'elle puisse prendre sa décision d'aller ou pas jusqu'au bout. Juste petite parenthèse, 15% seulement des personnes concernées par Huntington, à risque en fait de la maladie, passe le test. Il y a vraiment une minorité, on pourra en parler un peu plus tard de pourquoi ils sont si peu. Voilà. Le propos de ces interlocuteurs, c'était: si vous décidez d'aller jusqu'au bout, vous recevrez une information sur votre statut génétique. Ce ne sera pas un pronostic ni un diagnostic, mais une information. Or, les informations qu'elle reçut pendant ce protocole ont été les suivantes. C'est dégénératif. On se met à dégénérer et il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. Huntington rend dément et le malade ne se rend pas compte qu'il est malade et qu'il est dément. Le malade devient irresponsable. S'il a des enfants, par exemple, il devient un parent irresponsable. D'où le conseil fait à Alice à ce moment-là de ne pas avoir d'enfants si elle était porteuse. Ça ne fait pas trop mal physiquement, mais entraîne des douleurs psychiques absolument insoutenables, provoquant des suicides et compagnie. On lui a décrit des symptômes tels qu'une chorée dont on ne se rend pas compte, d'une agressivité au niveau comportemental, de désinhibition, etc. Et puis à la fin, on l'informa donc qu'elle était bel et bien porteuse et qu'il allait lui arriver tout ça. Donc. Et à ce moment-là, si vous voulez, elle prend tout ce qui lui est dit. Non, pas du tout comme une information, mais comme une prédiction. Elle se dit, tout ce qu'on vient de me dire, ça va m'arriver. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce protocole? Pour elle, c'est une catastrophe existentielle qui la rend malade, indépendamment de Huntington à ce moment-là, pour le coup. C'est quelque chose qui ne l'informe pas beaucoup, mais qui par contre enfin oui, qui l'informe beaucoup, mais surtout qui la déforme, on va dire. Elle n'est plus la même personne. Elle sent que tous ses possibles sont réduits par cette annonce. Et puis pendant ce temps, sa mère, qui est donc malade et très avancée, elle, qui s'appelle Anouk, lui montre bien d'autres choses de ce qui est dit pendant ce protocole de la maladie. Elle lui montre que certes, ses symptômes sont énigmatiques, particuliers, etc., mais qu'elle se rend tout à fait compte du fait qu'elle est malade, de ses difficultés, de ses handicaps, que si on discute avec elle normalement, comme une personne responsable, on va pouvoir entraîner un dialogue intéressant, etc. Elle est pas heureuse de tout ce qui lui arrive, hein, mais on peut, voilà, elle peut être une interlocutrice responsable, en tout cas. Donc ça a commencé à mettre un doute dans la tête d'Alice. Elle s'est dit, mais comment les autres vivent ce truc, si pour moi c'est différent de ce qu'a dit la médecine, avec un grand M majuscule. Alors elle est allée voir du côté des associations, et les associations à l'époque, hein, c'est les années 2005-2006, au fond, on ne remettait pas en question ce qu'on disait sur la maladie, était beaucoup plus focus sur trouver un traitement, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais les forums, alors elle était allée voir du côté des forums, et là, aucun malade ne s'exprimait, il n'y avait que des proches qui faisait tous sonner le même son de cloche, qui était que Huntington est une tragédie contre laquelle il n'y a rien à faire. Donc, dans ces conditions, elle s'est sérieusement posée la question de se supprimer, enfin, en se disant, ce n'est pas une vie habitable que celle-là. Et en même temps, elle se disait, c'est quand même bizarre, il faut aller voir de plus près, les gens doivent, ne se suicident pas tous, donc comment ils font, comment ils vivent avec ça. Et d'aller voir d'autres expériences a été une question de survie pour Alice, mais elle ne savait pas comment faire. Elle avait été transformée par une annonce exclusivement nourrie de statistiques où toute expérience était évacuée. Elle avait besoin d'avoir accès aux expériences d'autres personnes comme elle pour voir comment ils se débrouillaient. Elle ne pouvait pas y aller comme ça. Elle devait être équipée d'une manière ou d'une autre. Et c'est à cet endroit que je passe la parole à Valérie.
Bonjour, donc je prends la suite. Alors oui, équipée. Donc avec Émilie, nous avons décidé de créer autour d'Alice un collectif un petit peu particulier, un collectif de chercheurs, essentiellement sciences humaines et sociales, mais aussi neurologues, et des artistes. On a tous considéré ensemble, donc nous sommes une bonne douzaine, quinzaine de personnes rassemblées dans ce collectif, on a tous considéré qu'il y avait le problème d'Alice, que nous prenions très au sérieux, mais qu'on faisait le pari que derrière l'histoire d'Alice, il y avait un enjeu bien plus grand, et qui était finalement un défi de nature éthique, qui était celui de décider de se mêler du savoir qui était en train d'être érigé sur le dos des expériences des personnes touchées par la maladie. Donc la médecine, on le comprend bien, on le comprend même très bien, est prise dans sa propre temporalité et dans les contraintes liées à ses propres pratiques, ce qui est bien normal, mais du coup, elle prend le risque d'écraser les expériences des personnes touchées dans du déjà connu, dans quelque chose dont on n'aurait plus rien à apprendre. Et ça crée quand même parfois un décalage assez énorme entre une définition médicale pure et l'expérience qui en est faite. Et ce décalage, il est violent, pas que pour les personnes touchées, aussi pour les médecins, parce que les médecins en souffrent aussi de cette situation. Ce décalage peut être violent et peut provoquer et provoque trop souvent des situations assez désastreuses. Et ça, c'est aussi à partir de ce constat qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, en fait qu'il n'y avait pas rien à faire, mais qu'il y avait tout à faire. C'est ça qui nous a mis au travail. Et pour nous, il ne s'agit pas de substituer à la définition médicale une définition plus subjective de la maladie, mais bien de faire cohabiter plusieurs versions de la maladie de Huntington. Et notre mission, c'est de prendre soin de ces multiples expériences depuis l'endroit des personnes concernées. Et là, encore une fois, j'inclus les personnes, bien sûr, directement touchées, donc les personnes à risque, les porteurs de la mutation, les personnes déjà engagées dans la maladie, mais aussi les familles, les proches, et aussi l'ensemble des soignants, médecins. Il y a beaucoup de soignants aujourd'hui impliqués dans la maladie de Huntington, des kinés, des physiothérapeutes, etc. Donc pour nous, c'était très important de considérer l'ensemble de cet écosystème, et bien sûr en nous intéressant en premier lieu aux personnes directement touchées, mais elles ne sont pas seules, elles sont prises dans cet environnement. Et donc nous, on a pensé notre mission comme étant celle de prendre soin de ces multiples expériences depuis ces endroits-là et de fabriquer, chemin faisant, une forme de savoir avec laquelle il faudra faire alliance. Parce que quand il s'agit des patients, on associe très souvent l'expérience au vécu, qui est généralement laissée à la discrétion des psychologues. Là encore une fois, je ne dis pas que c'est pas important, le rôle des psychologues n'est pas important, il est très important, mais simplement, les patients finissent par être réduits à cette unique expérience du vécu. Parce que le vécu renvoie les patients à leurs émotions, à leurs ressentis. Donc tout se passe finalement comme si d'un côté on avait des patients qui étaient réduits à leur vécu émotionnel et puis de l'autre côté des scientifiques qui étaient réduits à leur savoir scientifique. Or on sait bien, je pense qu'on sait tous que la vie est un petit peu plus complexe et que les scientifiques, malgré leur savoir très rationnel, ils ont quand même aussi une expérience de cette maladie, ils ont des émotions, ils font face à des situations extrêmement compliquées. Annoncer une maladie comme la maladie de Huntington à quelqu'un, c'est très très difficile. Les patients, certes, ils ont leur vécu et leur ressenti, mais ils ne peuvent pas être réduits que à ça. Ça, c'est le pari que nous, on a fait et qu'on appelle un pari des savoirs dits expérientiels. On n'est pas les seuls à avoir à utiliser ces termes de savoir expérientiel, parce que nous aussi, on s'est beaucoup inspiré d'autres collectifs, d'autres associations de patients. Mais on avait, je précise qu'en fait, quand même, dans le monde des maladies neuroévolutives et d'Huntington, il y avait certes beaucoup d'associations plutôt en général portées par des proches. Mais il n'y avait pas de parole directement donnée aux malades eux-mêmes et aux proches et aux porteurs et aux personnes à risque. Et on avait constaté d'ailleurs que c'était pas que le cas dans la maladie de Huntington, mais aussi dans d'autres maladies, Alzheimer, Parkinson, où il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de savoirs qui sont développés, mais pas forcément ces savoirs expérientiels que par contre d'autres collectifs avaient réussi à développer, que ce soit autour du sida, de l'hémophile, des hémophiles, d'autres pathologies, ou disons que ce sont des personnes des patients qui ont tous les moyens de défendre leurs intérêts et de s'exprimer. Les maladies neuroévolutives, elles sont plus compliquées parce qu'elles compliquent la vie, elles compliquent la façon de communiquer, elles compliquent beaucoup de choses. C'est pas pour autant qu'ils n'ont rien à dire. Et donc, on a fait à Ding Dang Dong le pari des savoirs expérientiels. Donc, parler des savoirs expérientiels, pour nous, c'est prendre très au sérieux tout ce que les usagers, tout ce que les personnes concernées mettent en œuvre au quotidien pour apprivoiser la maladie. C'est considérer qu'ils ne font pas, encore une fois, que ressentir ou subir, mais bien qu'ils déploient des stratégies, des gestes, des trucs, des ruses, des attitudes qui leur permettent de vivre avec la maladie. Comme l'a dit Émilie, tous les malades d'Huntington ne se suicident pas, donc c'est bien qu'ils font avec et qu'ils le font sur depuis des années, puisque c'est une maladie profondément familiale, donc c'est des familles entières donc qui vivent avec cette maladie depuis des générations. Et que ces savoirs expérientiels sont de véritables savoirs qui, s'ils étaient considérés comme tels, auraient un pouvoir beaucoup plus habilitant. Donc ça a été notre mission, de recueillir ces savoirs expérientiels, et pour ça, il fallait qu'on ait toute une équipe avec nous. Et donc, on a demandé à des chercheurs, par exemple à des philosophes, à des sociologues, des historiens des sciences, de nous aider à penser la manière dont on allait pouvoir coproduire des savoirs avec les usagers, et pas sur les usagers dans leur dos, mais avec eux. Mais comment on le fait? Comment on déploie tout le tact nécessaire à une tâche aussi délicate pour ne jamais écraser l'absolue singularité de chaque expérience? C'est un enjeu, c'est un défi en termes des recherches, d'écriture qui est très important. Et on a aussi fait appel à des artistes parce qu'il nous avait semblé primordial que pour parler des savoirs expérientiels, il fallait aussi pouvoir explorer des dimensions qui ne sont pas forcément tout à fait approchables par la parole ou par l'observation. Donc on a fait appel par exemple à Anne Collot, qui est une chorégraphe, puisqu'il y a la choré de Huntington, il y a ces mouvements, cette danse. On s'est dit que qui mieux pouvait explorer ces mouvements qu'une chorégraphe danseuse, qui est donc partie à l'apprentissage. Elle a appris avec une personne choréique à comprendre les trajets de ces mouvements, à comprendre ce que ça fait à quelqu'un, comment ça transforme un être, et de partir plutôt du fait que c'est de la danse que uniquement un symptôme. Donc voilà, donc je détaille pas toutes les compétences qu'on a dans notre collectif, mais pourquoi on a rassemblé cette équipe. Et donc pendant 3 ans, on a, les 3 premières années de notre association, on a fait un gros travail d'enquête auprès des usagers de la maladie. Donc on a fait beaucoup d'entretiens avec des personnes malades, des conjoints, des personnes à risque et puis des soignants. Mais on avait décidé quand même de mettre un focus assez fort sur les personnes malades, puisqu'on ne leur avait encore jamais donné la parole. Donc on a dû réfléchir à un dispositif, c'était comme pour savoir comment travailler avec ces personnes, comment recueillir leur savoir de manière délicate, parfois avec des gens qui ne pouvaient plus communiquer tout à fait facilement. Donc on a fait vraiment tout ce travail pendant 3 ans, qui a donné lieu à un rapport de recherche et puis à un livre qui s'appelle « Le chemin des possibles », et dans lequel on a essayé de vraiment rendre visibles ces multiples expériences de la maladie à travers des portraits de parcours de personnes qui ont œuvré avec cette maladie. Et je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, donc juste pour dire que ce travail, et c'est pour rejoindre aussi l'intervention de Lorraine Dana, qui pour dire que le rôle des patients et le savoir des patients est extrêmement important. Et on a pu le constater, le vérifier avec ce travail que nous avons fait, parce qu'il a impacté, il a eu un impact important, en tout cas en France, dans l'écosystème, dans ce que nous on appelle l'Huntington Land, au moins déjà français. Il a permis de pouvoir créer un comité interassociatif de toutes les associations Huntington pour pouvoir déjà défendre des enjeux communs sur la prise en charge, les questions administratives, les questions d'emploi, etc. Parce que c'est quand même encore une maladie extrêmement stigmatisée. On a développé une collaboration très étroite maintenant entre Ding Dang Dong et l'association Huntington France, qui est la plus grosse association, l'association nationale, qui quand même a été métamorphosée en 4 ans et passée d'une association qui était centralisée sur la question de la recherche de traitement et continue à l'être, mais elle s'est ouverte à ce qu'on appelle la vivrologie, ce que c'est que vivre avec la maladie d'Huntington, et donc à pouvoir beaucoup mieux accompagner grâce au savoir qu'on a développé et qu'on est en train d'activer avec eux, à développer pouvoir mettre en place des permanences à l'hôpital, à faire des réunions un lundi par mois, je crois, de groupes de discussion avec des patients. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont évolué au sein de cette association qui est très importante. Les médecins aussi nous disent, après avoir lu Le chemin des possibles, qu'ils ont quand même pas mal changé leur façon d'aborder les patients dans les consultations. Notamment, on a mis à jour les questions des débuts invisibles de la maladie et de l'importance des aspects psychocomportementaux aussi de la maladie, qui est un petit peu minimisée et qui du coup ont permis par exemple à une neurologue de se dire que maintenant elle ne minimisait plus elle cette partie-là, cette avant. La maladie avant les symptômes très manifestes et évidents. Donc elle est beaucoup plus précautionneuse dans l'écoute qu'elle a des patients qui leur expliquent ce qui se passe déjà avant, qu'est-ce qui commence à bouger, qu'est-ce qui commence à se transformer dans le rapport au monde, etc. Ça nous a permis aussi de vraiment travailler en collaboration très étroite avec le centre de référence, parce que tout en France, on a une tradition un peu plus ancienne, pas si ancienne que ça, mais enfin quand même un peu plus ancienne des centres de maladies rares et des centres de référence. Donc il y a un centre de référence par maladie rare. Et donc nous, on travaille beaucoup avec le centre de référence de la maladie de Huntington à Mont-d'Or. On est en train de créer un projet d'éducation thérapeutique du patient avec eux. Donc vraiment en collaboration, usagers et médecins. On a pu justement travailler aussi sur la fiche handicap du site Orphanet, donc de la co-écrire avec les neurologues, parce que du coup nous avec le travail qu'on a fait, ben, on a pu développer une connaissance beaucoup plus fine de tous les handicaps quotidiens, de tout ce qui posait problème, toutes les difficultés que rencontraient les usagers au quotidien, qu'ils n'ont pas forcément le temps de développer dans les temps de consultation. Et donc ça a permis de rédiger cette fiche. Et puis on a participé aussi au protocole national de diagnostic et de soins, et notamment pour essayer d'élargir l'horizon au-delà des voies uniquement médicamenteuses, parce qu'il y a des médicaments, des neuroleptiques beaucoup pour tasser la chorée, pour calmer les comportements, pour des choses comme ça, mais on a essayé de les convaincre aussi de faire savoir qu'il y avait plein d'usagers qui utilisaient d'autres moyens, notamment d'autres moyens de soins, que ce soit la méditation, que ce soit les kinés, les physiothérapeutes. Il y avait plein d'autres façons de faire que l'unique voie médicamenteuse. Donc voilà, on voit qu'on a quand même, avec toutes ces connaissances développées et une meilleure compréhension de l'expérience et des savoirs expérientiels des patients, on a réussi quand même à créer une alliance assez forte avec le monde médical. Et puis enfin, et c'est ce qu'on va voir dans le film, on avait fait des propositions au bout de ces 3 ans d'enquête. On avait donc vu 2 problématiques qui allaient ensemble. Une problématique, c'était qu'il n'y avait pas de groupe, autant pour beaucoup d'autres pathologies, il y a des groupes d'entraide, des groupes de parole entre pairs, entre personnes touchées directement par la maladie. C'est le cas par exemple avec les personnes touchées par la schizophrénie qui ont monté tout un réseau, les entendeurs de voix. Mais dans le cas des maladies neurovolutives, il y a des groupes de parole pour conjoints, mais il n'y avait aucun endroit, aucun groupe d'entraide et de parole pour les personnes directement touchées, pour la simple et bonne raison que même les médecins en étaient effrayés. Ils nous disaient, il ne faut surtout pas que les malades se rencontrent, ils vont se faire peur les uns les autres. C'est peut être le cas, et les groupes d'entraide ne conviennent pas à tout le monde, mais ils conviennent à quand même pas mal de gens. Et on a créé des groupes d'entraide grâce à Alice. On a développé un premier groupe d'entraide à Paris qui marche très très bien. Et à partir de ce groupe d'entraide, on a commencé à travailler avec un plus petit groupe de 6 personnes qui sont dans les débuts de la maladie, justement pour explorer cette question des débuts invisibles de la maladie, ces débuts qui... Voilà, où il n'y a pas encore vraiment de symptômes majeurs physiques, mais quand bien même, les choses commencent à bouger dans le corps, dans la façon dont on appréhende le monde, dans des difficultés de décomposition des tâches, de concentration, d'attention, ce genre de choses. Et donc, on a travaillé avec 6 personnes et on a abouti à la fabrication de ce film que nous voulions vous montrer aujourd'hui et leur donner la parole à eux. Voilà, donc j'espère que le film vous... qu'on va peut-être se mettre...